des enterrements comme ceux-là, ça donne envie de mourir. Hein. C'est vrai, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Donc c'est bien. Alors, nous avons le plaisir, pour continuer, donc on a démarré en musique, nous avons le plaisir de recevoir quelques contre-personnalités, à défaut de personnalités, mais il y a aussi des personnalités qui se sont risquées. Donc voilà, nous recevons aujourd'hui Madame la contre-rectrice de l'Académie de Dijon. Merci de nous honorer de votre présence. Nous avons également Madame la contre-députée de l'arrondissement. Merci. Excusez-moi, c'est Madame Christiane Paul. Et puis nous avons également Madame la contre-préfète de Clamecy qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Avancez-vous, je vous en prie, avancez-vous. Madame la contre-députée, avancez-vous, je vous en prie, voilà. 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 Merci. Et voilà, on vous laisse la parole pour les traditionnels discours qui accompagnent les mises en bière. Voilà, merci.
Bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Ayant mot à dire en tant que contre-rectrice et représentant la Mater Alma, je crois deviner être attendue sur la thématique de la contre-éducation. Vaste sujet qui prend sa source dès le XVIIIe siècle chez ce contre-pédagogue, malheureusement peu connu dans la sphère de l'éducation. Sauf par les contre-maîtres, contre-maîtresses, contre-élèves, contre-étudiants et contre-étudiantes. Je veux parler là, non d'une virtualité délirante, née dans quelques synapses éthérées, égarées dans le cerveau du poète, mais de Jean-Joseph Jacotot en personne. Né à Dijon en 1770 et mort à Paris en 1840. Esprit indépendant et perspicace. Épris de discerner le vrai au milieu de tout ce qui a la prétention de l'être. Et à partir d'observations savoureuses sur l'art d'enseigner, comme celle-ci, qui sont tirées de ses écrits et que je vous livre. Alors, imaginons. Entrons en classe. Sont-ce là les élèves? Comme l'ennui est peint sur leurs figures attristées. Et que fait cet homme qui s'agit, gesticule et crie? C'est le professeur! C'est lui qui est chargé d'ennuyer et d'abrutir chaque jour régulièrement toute cette jeunesse. Jacotot développa une méthode qu'on peut qualifier de contre-enseignement, s'appuyant sur des maximes détonnantes. Toutes les intelligences sont égales. Qui veut, peut. Tout est dans tout. On peut très bien enseigner ce que l'on ignore. Eh oui. Ainsi, Jacotot affirmait que tout homme, tout enfant, est en état de s'instruire seul, le maître n'étant là que pour diriger et soutenir l'attention. Le philosophe Jacques Rancière, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, dans son livre « Maître ignorant » s'inspire de cette contre-pédagogie et la met en rapport avec le système éducatif actuel, fondé sur l'inégalité admise de savoir et d'intelligence. Vous comprenez pourquoi la contre-académie que je représente ici s'intéresse au plus haut point aux expériences menées dans le cadre de l'Université des Bistrots, Université qui s'inspire des principes même de la contre-pédagogie prônée par Jacques Otto, en réintroduisant la notion de plaisir dans le champ de la connaissance et de l'acquisition des savoirs, en prônant la gratuité, l'égalité, l'humour, en investissant, quel vilain mot, ces lieux publics que sont les cafés, les rades, les bars, les estaminets, en créant une contre-toile pour élargir l'audience, en faisant du diplôme un sésame vers la liberté, et en proposant une lubrification efficace des neurones pour leur rappeler tout l'intérêt des aventures collectives. Laissez-moi, pour conclure, vous reposer la question. Alors, on s'embrasse ? Et vous y invitez à y répondre de la manière la plus simple, en vous embrassant à plein bras et même plus.
Bravo ! Merci vous. Voilà, allez, embrassons-nous. Allez, embrassons-nous. Chers frères, embrassons-nous. Frères et sœurs, voilà, c'est l'heure, embrassez-vous. Allez, voilà, on y met du cœur. Allez, embrassez-vous là-bas, là, embrassez-vous. Embrassez-vous, voilà. Et voilà, on s'embrasse. Madame la contre-députée.
Tout le monde s'est bien embrassé. Mesdames. Mesdemoiselles et messieurs, corbies joyeuses et corbies joyeux, vous me voyez très heureuse et plus encore de pouvoir m'exprimer aux côtés, je ne sais pas si je puis me permettre cela, mais soyons fous et folles, soyons nous-mêmes. Une fois n'est pas coutume, soyons dans le contre-paraître. Profitons de cette belle journée de printemps avec mouches, jupes, volants, débardeurs et déodorants, sandales et robes à fleurs, bernuda, bob et mob, canon, pastis et barbecue de retour pour le plaisir de tous et de toutes. Merci donc de me donner l'occasion de m'exprimer aux côtés de cette merveilleuse broche de contre-personnalité, comme moi, épinglée au corps même de ce contre-événement. Je veux parler ici de cette joyeuse mise en bière qui nous est proposée par le poète. Vous me voyez touchée aussi en plein cœur. En pleine urne, pourrais-je dire, si j'étais élue et non contre-élue, car le cœur de l'élu est une urne. Touchée, radieuse, fleurissante, pomponnante d'être parmi vous et velles et vous, votants, votantes, contre-votants et contre-votantes. Ici, rassemblés pour faire péter la capsule et libérer enfin le giclet de la mousse si longtemps en rétention dans le bulbe des reins, dans l'entrejambe de la cuve aux saveurs amniotiques, déroutantes, envoûtantes, à bouleverser l'esprit, à verser dans la boule ce qu'il faut de folie. Épicer les heures et les secondes et oublier un temps, le vin aigre des décomptes, le foiré des rencontres d'intérêts truffées d'arrière, arrière, arrière-pensées. Comme ces conversations d'épicier dont se moque Isaac Babel dans ses fameux récits de Saint-Pétersbourg. Et puisque les vents d'Est nous inspirent, me viennent à l'esprit ces quelques mots ces quelques mots de Yudkevitch qui habitent mon oreille. De contre-élu, de contre-député, nourri au contre-science politique. Le défaut du blasé, c'est le manque d'imagination. Il borne l'univers temps et espace aux limites de son propre savoir. Pour lui, la fin du monde commence à la frontière de son cerveau. Il ignore que le trésor des possibles est inépuisable, qu'il y aura toujours des idées et des étoiles nouvelles à découvrir. C'est la dialectique de la vie. La fin de quelque chose signale le commencement d'autre chose. Ainsi, ne puis-je que me réjouir en tant que contre-élu de cette fin annoncée voulue de cette université des bistrots qui s'est attachée à fonctionner comme une contre-université. En tentant cette conjugalité problématique entre plaisir et savoir, joyeuseté, pour ne pas dire comme les Suisses, jouissance, et connaissance. Et comme une prise de parole de contre-élu doit se terminer par une chanson ou par un pas de danse, je vous invite à reprendre avec moi ce petit refrain qui fonctionnait comme un poil godin dans les bistrots de la Nièvre, refrain m'a-t-on dit piraté de Federico Garcia Lorca. Donc je compte sur vous pour chanter avec moi, parce que je chante très faux. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse tire sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Danse, danse, ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur.
Quel plaisir de voir monsieur le vice-président du Conseil général et maire de Corbigny danser avec la contre-députée au cours de cette très solennelle réunion en cette abbaye. Excusez-moi, madame la contre-préfète. Vous savez que suivant le protocole, c'est toujours l'État qui parle le dernier. Donc voilà pourquoi madame la contre-préfète va prendre la parole maintenant.
Je vous en prie. Oui, bonjour. Je remercie tout d'abord monsieur Boyko, doyen de l'Université des Bistrots de la Nièvre, seule université de l'Académie de bac niveau Morlop, conforme à la loi d'orientation des universités, initiée par M. Edgar Faure en 1968, remaniée par notre président très récemment. M. Boyko, qui m'a convié à la cérémonie qui clôture le cursus universitaire triennal, qui s'est déroulée d'une façon certes peu conforme à la tradition universitaire républicaine française, dans différents lieux nommés locaux. En entérinant la création de cette université éphémère dite des bistrots, le ministère et notre président ont voulu ancrer en milieu rural de façon significative et exemplaire, tout en soulignant le caractère expérimental de cette entreprise, la formation continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie. et la vie semble pouvoir durer longtemps dans l'académie de bac niveau Morlop. Des inspecteurs d'académie des différentes disciplines enseignées dans les nombreuses universités de notre République avaient été missionnés afin de vérifier que le cursus de l'université des Bistrots était conforme à l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence et qui procède d'une triple volonté que vous connaissez. Il a bien sûr fallu que le ministère, avec l'accord de notre président, procède à la création accélérée de nouveaux corps d'inspecteurs d'académie au regard de la thématique parfois nébuleuse de certaines conférences qui ne cadraient avec aucun programme de cursus existant. Vu l'urgence de leur nomination, leur formation s'est faite in situ au zinc, ont-ils rapporté. La nouvelle université française, voulue par notre président, est l'université de la réussite. Le contrat de réussite bidirectionnel passé entre l'étudiant et l'établissement d'accueil semble avoir été mené avec succès et efficacité à l'université des Bistrots, en atteste. D'une part, les volumes de bière ingurgités par les étudiants et les enseignants au cours des soirées d'études. D'autre part, les fiches de présence rapportées par les inspecteurs. Et par ailleurs, les innombrables jetons de présence bigarrés, arborés au veston par les étudiants ici présents. J'en ai repéré quelques-uns. Quelle assiduité remarquable. Je vous rappellerai que innover est la maîtresse pensée de la nouvelle université voulue par notre président. Dans un environnement mondial extrêmement compétitif, l'innovation repose sur une approche ouverte des connaissances. Les orientations stratégiques au niveau national doivent faire émerger une dynamique collaborative en identifiant notamment les secteurs dans lesquels la France doit faire valoir ses meilleurs atouts. Et ses meilleurs atouts ne sont-ils pas à saisir, ici même, dans l'excellence de tous ces chercheurs, professeurs, appreneurs, chanteurs, teneurs de bistrot, agriculteurs, penseurs, emblaveurs de bonnes graines, brasseurs de bière et de connaissances, tous créateurs de liens sociaux qui, chaque vendredi soir d'automne et d'hiver, sans se prendre la tête, cristallisent l'air pur de leur campagne hivernaise en une brume chargée d'humanité. Je pourrais en témoigner auprès du ministère et de notre président citadin. La terre nivernaise n'est pas une jachère intellectuelle, mais un vaste jardin en mouvement, confluence vivace de culture et de nature. Ah ! Merci. Merci. Il sera content. Ah, ils l'ont bien mérité,
leur licence pluridisciplinaire, décloisonnée, intergénérationnelle, à laquelle j'ajouterais, moi personnellement, une mention en biérologie et chansologie. Ah, ils l'ont bien mérité, les étudiants Héméralope, Nyctalope, Aclope, Avarlope, Kigalope, Interlope, Pénélope, mais tous antiflopes. De l'académie de bac niveau Morlop, au sein de laquelle rayonne l'université des bistrots. Je vois au froncement de certains sourcils que nous avons dans l'assistance quelques intrus, des non-autochtones qui ignore la signification de l'acronyme qui désigne notre académie, bac niveau Morlop. Les autres auront bien sûr saisi. Hein, mais je rappellerai donc quand même brièvement avant de conclure que l'académie de bac niveau Morlop est le raboutement des zones géographiques suivantes, Bazois, Corbigeois, Nivernais, Vaudionne, Morvan, Bordeloire, Puisaye, qu'il était judicieux de compresser en un acronyme à l'articulation bien plus aisée que l'énumération complète. Voilà, j'en arrive à la conclusion et je m'appuierai pour cela sur un constat qui, vous le saisirez, échappe au cadre réglementaire des dispositifs du contrôle des connaissances et aptitudes et de l'évaluation des formations et des enseignements. La soif des connaissances est inextinguible.
Merci, Madame la contre-préfète. Si monsieur le contremaître, le contremaire veut bien dire quelques mots, voilà. Vous savez qu'en principe, on ne parle pas après l'État, mais...
Non, je vais essayer. Pas longtemps, je vous promets. D'abord, merci d'être tous là à cette mise en bière. Je ne partage que partiellement la pensée de Jean Bouchereau énoncée tout à l'heure. Je crois vraiment qu'il vaut mieux mettre en bière qu'être mis en bière, mais ça donne envie de revenir, quoi, pas de rester là. Voilà. Cela dit, sur le reste, je trouve qu'on lui doit beaucoup. Je lui dois, moi en particulier, beaucoup, puisque j'ai hier soir ramené à la maison, et pour la première fois depuis bien longtemps, un diplôme universitaire. Ça a beaucoup fait plaisir à ma femme. Du coup, elle a été sympa. Enfin, une contre-rectrice, un contre-député, un contre-préfet, je n'y suis absolument pas habitué. Normalement, voyez-vous, dans les discours, on va en crescendo. Donc, je commence toujours par présenter ceux qui suivent et ensuite, je m'en vais. Là, je suis, je crois, le dernier, donc censé dire des choses beaucoup plus importantes ce qu'on dit, ceux qui venaient avant. Pour ne pas les blesser, je le ferai avec seulement mon contre-talent. Vous m'avez vu danser tout à l'heure. Vous en mesurez l'étendue. Rassurez-vous, je ne chanterai pas. Oui, j'ai été interdit de chant à l'âge de 11 ans. Ça a été un vrai traumatisme pour ceux qui m'avaient entendu. En tout cas, merci à Jean d'avoir créé l'université des bistrots dans ce cadre, l'abbaye du Jouir. C'est un nom qui ne me déplaisait pas a priori, mais il était un peu contenant. Donc on l'a changé un petit peu, c'est devenu l'abbaïcité, mais c'est l'abbaïcité du jouir, bien sûr. De la bière maintenant, de la danse, du théâtre, de la belote et de la pétanque. Toutes choses ont lieu ici, chacune à leur tour ou parfois simultanément. En tout cas, j'ai lu il y a quelques semaines de ça que l'université des bistrots était en fait un cours d'écolo-gauchisme. Je l'ai lu et je me demande si ça n'est pas vrai. On a toujours besoin d'un ennemi intérieur. Ça a été le socialo-communisme. C'est aujourd'hui l'écolo-gauchisme. C'est un peu la face verte du péril jaune. Verte et rose. Enfin, rouge. En tout cas, nous sommes devenus un pôle universitaire totalement unique et extraordinaire. On le doit à Jean, et je ne le remercierai jamais assez d'avoir décidé d'investir l'abbaye, de l'avoir baptisée et de la faire vivre, et de faire vivre en fait tout autour ce pays. Il a ouvert une fenêtre, il nous a ouvert une fenêtre sur le monde, et en même temps, il a amené le monde à nous, ce qui lui a permis de nous voir. Alors, merci à toi, Jean, et merci à vous tous d'avoir participé aux universités. Je pense que ça n'est pas ta dernière idée ni ta dernière création. J'attends donc avec impatience la suivante. Merci.
Merci, monsieur le maire. Merci. Donc voilà, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous avons un document officiel qui va être remis à Didier Dumas, artiste maître brasseur en pays sancerrois, et qui dit que nous remettons officiellement le nom bière de l'abbaye du Jouir. Nous lui remettons le nom bière de l'abbaye du Jouir qu'il pourra utiliser comme il le voudra et pendant des siècles, on espère. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, vous avez quelques mots à nous dire sur cette bière qu'on va découvrir, bien évidemment, puisque c'est une mise en bière, mais vous voyez que tout fonctionne à l'envers. Que ce soit pour les personnalités ou l'idée même de mort, puisque la vie, la bière va sortir de ce cercueil que nous a prêté Monsieur de Souza, pompe funèbre de Corbigny. Voilà.
Bonsoir. Donc, je suis apparemment le dernier et c'est pas la tâche la plus facile parce qu'on a entendu des jolis contre-discours. Le mien, j'espère, va être assez bref. Je suis ici pour déjà remercier Théâtre Éprouvette, Monsieur Jean Bosco, du cadeau qu'il vient de me faire, donc d'avoir une marque comme ça et je trouve aussi belle et aussi bien nommée pour une bière. Et profitant de cet instant, je suis venu vous expliquer un petit peu comment est née cette bière et pourquoi on en est arrivé là et que l'on fait cette mise en bière en présence de cette nouvelle bière de l'abbaye du Jouir. Nous sommes réunis pour assister ce matin à la joyeuse mise en bière de l'Université des Bistrots. Tout le monde en a parlé, vous êtes au courant. Donc je pense que dans ce moment de non-tristesse et des moins pénibles, je suis venu vous entretenir de la disparition d'une bière virtuelle, puisqu'on travaille dessus depuis pas mal d'années maintenant, et de la naissance donc de ce réel breuvage de l'abbaye du Jouir, dont l'accouchement s'est fait tout dernièrement. Donc elle est encore bien jeune, mais ça s'est fait dans la foi et la bonne humeur. Alors faire naître une bière d'abbaye est un privilège qui de tout temps a permis aux hommes de Dieu de pouvoir connaître les plaisirs de la création pro. d'apprécier les joies de l'enfantement et de fondre de bonheur au baptême de leur nouvelle-née. Et tout cela sans déroger aux règles en vigueur dans ces murs, si règles il y avait. Mais pour arriver à cette naissance, il a bien fallu un déclencheur, un déclic, pour partir d'un texte ancien, d'un vestige ou d'une légende concernant une bière de cette abbaye, pour crédibiliser cette entreprise. Et c'est là qu'intervient, je dirais, la grandeur de l'ancien maître de ces lieux, qui permit un petit matin du printemps 2007, M. Bouchecou me l'a conté, et par le plus grand des hasards, un corbigeois, pour le moins bien curieux, a découvert un vieux grimoire entre deux pierres légèrement descellées d'un des murs de soutien d'un énorme chaudron anciennement utilisé dans cette ancestrale abbaye. Celui-ci rempli d'annotations, ce grimoire était rempli d'annotations si étranges et si anciennes qu'un chercheur du CNRS, et il a fallu aller jusque-là pour pouvoir décrypter ce message, a passé bien des nuits blanches à transcrire ces écritures. Et à la fin du compte, il m'a expliqué que le texte était écrit en vetus latiné, alicarius ebrius. Pour être précis, c'est de l'ancien latin de Brasseur. J'ai pas traduit ebrius, je vous laisse le choix de... Enfin, vous pourrez le faire, je pense. Donc ce travail nocturne porta ses fruits et permit ainsi de redécouvrir la fabuleuse recette de la bière de l'abbaye. Et voici en quelques mots, après traduction, ce qu'elle nous révéla. Donc ça, c'est la recette, genre de recette que j'utilise, moi, brasseur, décrite pour faire mon travail journalier, je dirais. Mais on est resté sur des mesures de l'époque. Donc pour 4 barriques de 30 veltes de notre bonne bière de carême de l'abbaye de Corbigny, prendre un frère avec de bons bras dans la force de l'âge, un fourquet d'une bonne brasse de longueur, donc un fourquet est l'outil principal du brasseur. Bon, c'est vrai que maintenant, le mien est un peu électrifié, mais on s'en sert encore de temps en temps. Donc, il nous faut 5 barriques d'eau orifère de Languison, avant son arrivée en ville, bien sûr, et bien fraîche. 22 boisseaux d'orge de pays germés et séchés à l'automne par nos frères. 2 boisseaux de blé de notre dernière récolte. 1 boisseau et demi de petites graines roses de miro. Donc ça, c'est le secret de la bière que je ne vous traduirai pas. J'irai pas plus loin dans la description. 4 poignées de houblon de la fin de l'été passé, cueillies à la lisière sud des grands bois de Montreillon. 1 seau de levure de cervoise au doux parfum de noisette. Et 4 jalets de miel de nos ruches. Donc, vous voyez, c'est une recette assez précise. Et je dirais que la bière est un produit ancien et peu de choses ont changé. Donc on continue. Donc c'est ce qui m'a permis... avec les explications. Donc, il était indiqué par la suite de procéder comme suit. Porter à forte température 3 barriques d'eau orifère, y verser les boisseaux de malt d'orge et de blé bien écrasés, laisser tremper en remuant fortement au fourquet pendant 2 à 3 heures. Donc, il faut des bons bras. Vous voyez un peu pourquoi il fallait un bon moine. Laisser reposer, puis quand tous les sucres sont présents, soutirer le mou en prenant bien soin de rincer plusieurs fois avec les 2 barriques d'eau restantes. Elles sont, elles aussi, bien chaudes. Faire bouillir ce mou pendant 3 heures en y ajoutant le houblon séché, les graines de miro dont je vous ai parlé et quelques épices qui étaient notées dans un petit coin du parchemin. N'économisez pas le bois, l'ébullition doit être vigoureuse. Vous voyez comment ce texte était précis, on indique bien qu'il ne faut pas louper son travail, quoi. Laisser refroidir le mou, par le moine, sous la charpente de notre abatisse, puis ajouter les levures qui permettront à notre homme de pouvoir dormir en paix quelques semaines pendant que travaillent ces créatures divines. Bon, c'est ainsi que je les considère parce qu'elles me facilitent pas mal le travail quand on arrive à les maîtriser, donnant naissance à notre nectar euphorisant. Après ce bon repos, il ne reste plus qu'à rajouter les 4 jalets de miel du pays et enfin mettre en bouteille. 2 semaines au chaud et les bulles seront là. Alors, il ne restait plus qu'à la mettre en œuvre, cette recette, puisque je l'ai, puisqu'on l'a trouvée et qu'elle a été traduite. Donc, n'ayant pas trouvé de moine dans la force de l'âge, je me suis donc attelé à la tâche et j'ai reproduit les gestes ancestraux, suivant les consignes, à la lettre. Ça, je peux vous le garantir. Le plus dur fut de trouver de l'eau orifère, l'eau traitée étant plus fréquente de nos jours, et le prix de l'or a sérieusement monté avec la crise. Donc, ça augmente les coûts. Les autres ingrédients sont toujours là, à portée de main, sauf les levures que je suis allé acquérir chez un vieux moine belge qui avait gardé des secrets d'antan dans ses coffres cléricaux. Donc vous voyez, tous ne sont pas passés à la trappe. Donc, Alors, pour finir cette présentation, sachez que les bières d'Abbaye étant souvent fabriquées assez fortes pour accompagner, étaient fabriquées assez fortes pour accompagner les moines pendant leur période de jeûne, que la bière est toujours considérée comme du pain liquide puisque ça leur servait pendant cette période de disette, et que par ses qualités nutritives, et que maintenant elle se consomme carrément tout le temps. Mais n'oubliez pas, soyez intelligents, buvez modérément. Merci.
Merci. Merci. Voilà, alors on nous annonce l'arrivée de Claude Agege qui va faire sa conférence avec 2 heures d'avance. Non, voilà, on va peut-être l'attendre pour la suite. Voilà, donc moment sérieux. Il faudrait. Est-ce que tu peux. On va soulever le couvercle. Merci de garder le silence. Est-ce que tu peux. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir un petit peu de musique, quelque chose. Alors, très lentement, il dépose le couvercle du cercueil. C'est pas Jean Ferrat, hein. Voilà. Et la lumière fut. De bière. Voilà. Je vous invite à vous approcher pour découvrir. En silence, s'il vous plaît, en silence. Voilà le résultat. Alors attention, voilà, approchez-vous. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, et là, nous allons saisir, ils se saisissent d'une de ces bières, et, non, s'il vous plaît, la cérémonie, et, voilà, se saisit d'une de ces bières, vous pouvez la tenir, s'il vous plaît, voilà, et là, suivant la tradition, une jeune vierge va venir, approchez-vous, n'ayez pas peur, voilà, une jeune vierge va venir la décapsuler. Voilà, bravo. Et on va, donc, ben voilà, maintenant je vous invite à, on va vous servir un petit peu de bière. Ne croyez pas qu'on ait été mesquin, mais franchement, n'attendez pas autant de monde ce matin. Donc voilà, débrouillons-nous avec ce qu'il y a, on va servir des bières et puis on va la goûter, voilà. Merci.